Chapitre 33. Vladimir ouvre les yeux. Où est-il? Au paradis? Sûrement pas. On lui a enseigné depuis son plus jeune âge qu'il n'y a rien après la mort. Il se souvient du champ de bataille, sa solitude parmi les cadavres, le bruit des chars T-34 et une grande douleur. Il la sent encore, c'est donc qu'il n'est pas mort. Il se réveille de plus en plus. Il regarde autour de lui, des blessés. Il perçoit leur geignement. Il voit des infirmiers qui se déplacent entre les corps prodiguant des soins. Il situe sa douleur à l'épaule et à la jambe. Malgré sa souffrance, une immense joie le traverse. Il est vivant. Dans la boucherie des combats, il a vu tellement de camarades tomber qu'il en était arrivé à penser que sa fin était inéluctable. Et il est là, au calme, loin du feu roulant. Peut-être y a-t-il un dieu, malgré ce que l'on a affirmé? Le camarade médecin s'approche. « Tu as eu de la chance, camarade Gostanev. Tu es le seul rescapé de ta section. Tu as reçu une balle dans l'épaule et une autre dans la jambe droite. On va t'évacuer et les extraire. » Il est maintenant couché dans un lit avec des draps blancs. Les chirurgiens l'ont opéré et lui ont affirmé que dans 3 semaines il serait sur pied. Il tend sa main vers la table de chevet et prend sa médaille. Héros de l'Union soviétique, il n'ose y croire. Il pense avec émotion à l'instant où le général est venu épingler sur sa poitrine cet insigne prestigieux. Pourtant, sa joie est troublée par une pensée. La guerre n'est pas finie. Il va falloir retourner au front. Malgré sa médaille, sa foi s'est émoussée. Il ne se sent plus prêt à mourir pour la patrie. Il est jeune, il veut vivre, profiter de la vie. L'armée allemande recule sous tous les fronts. Les Alliés ont débarqué en Normandie et progressent vers l'Est. En Europe centrale, l'armée rouge inflige défaite sur défaite à la Wehrmacht. Vladimir Gostanev a été promu capitaine. Son corps d'armée a pénétré sur le territoire polonais. Le gros des troupes allemandes recule, mais il faut débusquer les francs-tireurs embusqués dans les bois et les villages. Cette guérilla ralentit la progression des troupes russes. Karl Stroopmann essaie de téléphoner à Berlin. Cela fait plus d'une heure qu'il tente d'obtenir le haut commandement. Il ne sait pas quoi faire. Tout autour du camp de Treblinka, les troupes allemandes reculent. Il voit au loin les colonnes de camions et de blindés qui passent. Il ne veut pas jouer les héros. Il sait que les troupes russes ne font pas de quartier, surtout si elles découvrent le camp. Sa décision est prise. Il va quitter discrètement Treblinka. Dans un sac à dos, il entasse tous les bijoux et les dents en or et une tenue civile. Sous la semelle intérieure d'une de ses chaussures, il cache le papier de Fred Garth. Il demande à un SS de sortir sa voiture de commandement. Le véhicule démarre et franchit la triple enceinte du camp. Au bout de 3 kilomètres, au milieu d'un bois, Karl Stroopmann commande au chauffeur de s'arrêter. Il a besoin d'uriner. Il s'éloigne entre les arbres. 10 secondes après, il appelle le SS. Étonné, celui-ci sort de la voiture et s'enfonce à son tour dans le sous-bois. Il tombe en face du chef de camp qui, sans lui laisser le temps de réagir, lui décharge le contenu de son luger dans le corps. Stroopmann regagne alors son véhicule, sort son sac et, dans le bois, revêt sa tenue civile et cache son uniforme sous un tas de feuilles. Puis il s'éloigne, ensuite, à travers les arbres, vers l'ouest. Le capitaine Gostanev est arrivé au camp de Treblinka. La garnison allemande n'a opposé aucune résistance et les SS et les auxiliaires ukrainiens sortent du camp les bras levés. Les Russes, en pénétrant dans l'enceinte, sont impressionnés par ce qu'ils y découvrent. Les prisonniers dans les bâtiments sont d'une maigreur effroyable. Certains sont tellement épuisés qu'ils n'ont même pas la force de se lever. Ils regardent les soldats les yeux hagards. L'odeur de viande brûlée qui règne partout est insupportable. Les Russes, pourtant habitués à voir les pires horreurs, sont impressionnés par la vision des centaines de cadavres empilés dans des fosses, des fours crématoires d'où sort une fumée noirâtre, des chambres à gaz dont ils ont compris la fonction. Les responsables du camp ont disparu, seuls les exécutants sont restés sur place. Les équipes sanitaires, venues dans la demi-journée suivante, s'occupent des rescapés. Les troupes combattantes reprennent leur progression. Les ordres du Kremlin sont formels, il faut continuer et devancer les armées alliées qui progressent vers l'est. Le poste radio du capitaine Gostanev retentit. Un groupe de ces hommes vient de capturer un civil qui se cachait dans les bois. Arrivé sur place, Vladimir se fait amener l'individu. Celui-ci proteste, il n'est qu'un pauvre paysan polonais pris dans la tourmente de la guerre. Il fuyait les combats pour aller trouver refuge dans de la famille plus à l'ouest. Bien que ne parlant pas parfaitement le polonais, Gostanev trouve bizarre le comportement de ce paysan. Il sait que de nombreux militaires allemands ont revêtu des tenues civiles pour échapper aux Russes. Quand de tels fuyards sont pris, ils sont exécutés sans jugement. Il y a souvent des bavures, mais la guerre, c'est la guerre. Pour la forme, il l'interroge et essaie de lui faire avouer qu'il est allemand. L'homme est assis par terre, les mains sur la tête. Le capitaine sort son pistolet, fait entrer une balle dans le canon et le braque sur le crâne du paysan. Le « civil », entre guillemets, s'affole et soudain se met à parler allemand. Oui, il avoue, il n'est pas polonais. Il n'est qu'un pauvre officier allemand contraint d'aller faire la guerre. Si le capitaine l'épargne, il peut faire sa fortune. Il a de l'or, beaucoup d'or. Gostanev ouvre le sac qu'il lui désigne. Il l'ouvre, jette un coup d'œil. Il comprend tout. Des bijoux, des couronnes en or. Il repense écœuré à Treblinka, referme le sac, le repousse du pied et pointe son pistolet. L'homme se met à sangloter, se met à genoux, supplie. Cet or n'est qu'une partie de l'énorme fortune qu'il met à la disposition du capitaine. Il sait où sont cachés plusieurs milliards de marks. Gostanev hésite, la main tendue, les doigts serrés sur son arme à feu, l'index sur la queue de détente. Dans son esprit, les idées se heurtent, contradictoires. L'idée de supprimer l'être ignoble qu'il a à ses pieds est très forte, mais aussi les souvenirs de toutes les souffrances et les horreurs qu'il a rencontrées depuis Moscou le hantent encore. Il revoit les visages de compagnons tombés pour un idéal auquel il ne croit plus. Il a maintenant conscience que les paroles de Staline sont fausses et que l'avenir radieux promis s'éloigne chaque jour un peu plus. Seul existe le présent, et le présent, c'est cet or dans le sac et le magot évoqué par l'officier allemand à sa portée. Il fait amener Stropman dans un camion bâché. Soulagé de n'être pas encore mort, le nazi déballe tout ce qu'il sait. L'argent du trafic de gangsters américains caché à Paris, les révélations de Fred Hogart. Il enlève sa chaussure, en extrait un papier, il vaut une fortune. Bien sûr, il est codé, mais avec du temps, il est possible de le déchiffrer, il allait le faire. Gostanev comprend que l'homme lui a tout dit et qu'il ne tirera plus d'informations supplémentaires. Il le fait sortir du camion et donne un ordre bref. Snopman est soulagé, il a la vie sauve. Il s'écroule sur le sol, fauché par une rafale de fusils mitrailleurs.